Non, chambre 212, ça évoque rien pour toi?
Non.
Et madame est professeure en fac de droit. Article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Ah non, pas vous. Vous pouvez pas me faire la leçon sur la fidélité mutuelle, hein. Vous êtes bien tous des dégueulasses.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en place pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas l'odeur.
On parle tout vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
On parle tout vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Qui n'a pas rêvé un jour de traverser la rue et de regarder sa fenêtre, sa vie, sous un autre angle, se détacher de soi pour mieux se voir, se comprendre? Il l'a fait pour nous, il l'a réalisé sur grand écran, ce grand fantasme. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Faisons comme si a plus de valeur que faisons comme c'est, dit-il. Comme si c'est une proposition et il faut l'accepter. Bonjour Christophe Honoré.
Bonjour.
Auteur de ce conte conjugal, chambre 212, un titre qui sonne comme du Truffaut, du Guitry, du Ivory, du Demi, mais à l'arrivée du 100% Honoré. Au centre de ce film, une femme qui vous confie un rôle d'habitude attribué à un homme. Bonjour Chiara Mastroianni.
Bonjour.
Don Juan n'a pas de féminin, alors vous l'inventez. Autour de vous, une chorale, celle de votre présent passé. Bonjour Benjamin Biolay.
Bonjour.
Le mari trompé, tendre loser, acteur, oui vous l'êtes, même si vous ne l'avez pas encore complètement accepté. À vos côtés, vous en plus jeune, bonjour Vincent Lacoste.
Bonjour.
Que le cinéma a précipité très tôt dans la vie adulte et enfin la rivale de votre passé, Chiara. Bonjour Camille Cotin.
Bonjour.
Et bienvenue avec Benjamin Biolay dans l'univers de Christophe Honoré, chambre 212, sur les écrans des mercredis prochains. Enfin, les sorties ciné de la semaine, entre Atlantique et Gemini Man, Psychomagie et Charles Aznavour, on navigue, c'est parti.
T'as un amant, il s'appelle Aznavour, je sais pas quoi là, et tu voudrais qu'on passe à autre chose.
Oh, est utile de dramatiser cette histoire, je t'assure. C'est juste une activité sexuelle amusante. Et puis d'ailleurs, ça s'est terminé aujourd'hui. Rien qui ne réclame une longue explication entre nous.
Depuis quand, dis-moi, ta sexualité est devenue une activité extra-conjugale?
Ça fait des années, mon amour, qu'on vit comme frère et sœur. Alors, parfois, comme toi, j'imagine, je me permets des aventures qui n'ont rien à voir avec nous.
Tu sais que t'es en train de me lancer quelque chose que je n'aurais jamais imaginé.
Mmh.
Ne me touche pas. T'étais avec lui cet après-midi.
Mais chérie, on est ensemble depuis plus de 20 ans. Qu'un couple ne dure aussi longtemps sans de petites histoires de cul à gauche à droite. Ben, c'est normal, c'est logique. C'est la loi des couples qui dure. La personne n'y échappe. C'est comme deux et deux font quatre. Le reste, c'est du vent.
Sauf que moi, je t'ai jamais trompé en 25 ans.
Menteur. Mais je veux rien savoir. Il ne s'agit pas de décerner à l'un d'entre nous la médaille du mérite conjugal.
Un homme n'épouse jamais la femme qu'il aurait dû.
Ne dis pas ça, c'est pas juste.
Ben voyons, c'est pas juste, bien sûr.
Un couple usé par les années, 20 ans au compteur, Maria, c'est Chiara Mastroianni, et Richard Benjamin Biolay dans leur appartement qu'elle va quitter un soir après la confession d'un adultère pour rejoindre une autre chambre, un autre lit, dans l'hôtel en face et retrouver là-bas son passé. Je le disais en démarrant, c'est un fantasme, ça, c'est vrai, de regarder sa vie en face. Vous l'avez eu, vous, Christophe Honoré, c'est comme ça que c'est parti.
Bah, c'est en même temps une assez bonne définition du cinéma.
Oui, c'est vrai.
C'est un fantasme de regarder sa vie en face. C'est un peu pour ça qu'on fait des films. En tout cas, je crois que dans l'idée des films d'auteur, c'est souvent ça. C'est-à-dire, on essaye comme ça de revivre ou de refaire autrement avec des gens plus brillants, plus beaux, en fait des situations, des sensations, des sentiments que vous avez vécu dans votre vie.
Benjamin Biolay, je vous regardais, vous écoutez, donc vous vous regardiez, enfin vous regardez quoi, quand vous voyez acteur.
Non, je me souvenais là du moment,
ah oui,
du moment précis, ouais, du moment où Chiara me devait toucher la main. Elle devait me toucher la main, c'est tout un truc entre nous.
Et Chiara, vous vous en souveniez aussi, bien sûr.
Oui, je me disais, c'est étrange d'entendre juste sa voix sans les images. Déjà, moi, je trouve que c'est pas très agréable d'entendre sa voix.
Ça, mais c'est la radio en même temps, on peut pas...
Non, mais non, je voulais dire, c'est toujours étrange d'entendre un extrait de film sans... sans le, l'image. Ouais.
Se pencher sur la conversation conjugale, c'est ce que vous vouliez faire, Christophe Honoré, avec des ancêtres en tête comme Bergman ou Woody Allen, qui est toujours vivant, hein, d'ailleurs.
Oui, bah, c'est... Le lien conjugal, c'est quand même la matière de beaucoup de films, et c'est vrai que ça m'amusait en fait d'essayer comme ça de trouver une manière, on va dire un peu inédite, légère, de comédie quand même, parce que je crois que le film assume quand même vraiment sa part de légèreté et de comédie, pour essayer comme ça de l'étudier, mais le plus sincèrement possible, sans hypocrisie, quoi. Qu'est-ce qui relie ces deux personnages, le personnage de Richard et le personnage de Maria, et qu'est-ce qui les relie en dehors du rapport au temps, de toute éternité, j'allais dire.
On revoit beaucoup de films pour écrire ce genre de comédie-là.
J'ai eu une petite période il y a 2 ans, Sacha Guitry, j'avoue, je me suis revu un peu énormément de films de Sacha Guitry, ouais. Et aussi les films de Léo Macaret, toutes les comédies de remariage en fait des années 40, Indiscrétion de Cucor, etc. Et j'avais envie en fait de retrouver cet esprit-là.
Oui. Oui, je pensais à Indiscrétion plus qu'à l'autre, parce que je trouve que Chiara Mastroianni est plus proche de Catherine Hepburn. On écoute un extrait. Bah...
Take Tracy, for example. There's never a blow that hasn't been softened for her. Never a blow that won't be softened. As a matter of fact, it even changed her shape. She was a dumpy little thing at one time.
Only as it happens, I'm not interested in myself for the moment.
Not interested in yourself? You're fascinated, Red. You're far and away your favorite person in the world.
Dexter, in case you don't know...
Of course, Mr. Connor. She's a girl who's generous to a fault.
To a fault, Mr. Connor?
Except to other people's faults. For instance, she never had any understanding of my deep and gorgeous thirst.
That was your problem.
Granted. But you took on that problem with me when you took me, Red.
Oui, vous vouliez ajouter Christophe.
Oui, parce que figurez-vous justement dans le scénario, j'ai appelé le personnage que joue Camille Cotin Irène, pour en référence à Irène Dune.
Ah oui.
Et j'avais appelé en fait le personnage que joue Chiara Catherine en référence à Catherine Hepburn.
Mais malheureusement, il y a une autre référence.
Bah, c'est ce que m'a dit
Catherine Lara.
Qui vous a mis totalement échappé, bien sûr.
Totalement. Ouais.
Vous dites Chiara dans le film, je vis des aventures qui n'ont rien à voir avec nous. En fait, cette femme, elle est un peu comme un homme, elle sait séparer le sexe de l'amour.
Oui. Pourquoi comme un homme? Oui, comme un homme.
Comme beaucoup d'hommes, d'hommes racontés au cinéma. Camille, allez-y, approchez-vous du micro.
Non, rien. Non, pourquoi?
Comme beaucoup d'hommes.
Non, mais c'est vrai que
général,
tout le monde réagit, pardon, je vais te poser une question, mais tout le monde dit, ah, c'est agréable de voir que les rôles sont inversés. Mmh. Donc, très précisément, dans l'inconscient collectif, c'est vraiment. Un rapport au sexe qui est défini comme masculin. Et
votre rôle, par exemple, lui, il est assez fort. Hein. C'est une femme forte qui est très triste et qui souffre beaucoup, mais c'est quand même un sacré caractère aussi. Donc, est-ce que Chiara peut répondre
à... Ouais, Camille,
ben oui.
Bah oui. Un sacré caractère, comme vous dites.
Non, mais au début, c'est vrai qu'au pré-générique, on voit marcher un peu comme une warrior, quoi.
Ouais.
Hein, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut.
Ouais, c'est vrai. C'est une femme qui avance.
C'est une femme qui avance, qui marche comme une conquérante. Mais qui, pour elle, tromper son mari, c'est un peu aussi faire durer son mariage?
Eh bien, je me suis posé la question.
Pour vous ou pour elle?
Non, pour moi c'est trop tard. Pour elle, oui, je pense que, enfin, je sais pas, je pense qu'elle, c'est comme si elle compartimentait vachement les choses, c'est-à-dire que c'est pas, c'est quelqu'un qui a un appétit visiblement, mais qui ne se sent pas du tout, en tout cas, consciemment, en situation de culpabilité par rapport à son mari. Bon, évidemment, une fois qu'elle va traverser la rue pour réfléchir, elle va sans doute voir les choses différemment, l'accumulation comme ça d'aventures et tout ça, c'est plus que je pense qu'elle se pose pas trop de questions, quoi. Elle prend ce qui lui fait envie.
Benjamin Biolay, l'image du mari abandonné, c'est pas vraiment l'image qu'on a de vous dans la vraie vie.
Ah bah non, forcément. Je suis chanteur, donc on n'imagine pas que c'est tous des maris abandonnés.
Non, déjà. Mais dans votre caractère, l'image qu'on donne
même,
de vous.
Oui, mais vous savez, dans un personnage, il y a toujours des moments où on se reconnaît quand même, il y a un jour de la vie au moins où on est un mari abandonné, où on se sent dans cet état-là, quoi. Donc c'était pas si compliqué d'imaginer.
Tendre loser, ça vous va comme qualificatif?
Loser, oui. Tendre. Ah oui. Mais loser, non, j'aime pas ce mot, je trouve ça. Je pense pas que ce soit un loser, garçon. Non.
Pourquoi vous acceptez toujours pas d'être un acteur dans les interviews, ça vous dit non, je suis pas acteur.
C'est pas parce que c'est pas quelque chose à laquelle auquel je pense comme ça spontanément. Si on me réveille, on me dit tu fais quoi dans la vie, je fais faire du solfège. Enfin, je suis toujours dans ma je me sens toujours très musicien. Mais c'est vrai que quand je suis comédien sur un film, je fais que ça naturellement. Mais
il faudrait quoi?
Vous savez, j'ai mis des années à me sentir chanteur déjà, donc.
Il faudrait un grand rôle pour vous sentir légitime.
Non, je suis très heureux comme ça, moi, vraiment. Ah, légitime?
Oui, parce que.
Ah, légitime, je me sentirais jamais légitime.
Ah bon?
Non, mais c'est pas. La légitimité, ça ne m'intéresse pas tellement, en plus, quoi.
Parce que vous, Chiara aussi, vous avez eu du mal à accepter d'être actrice.
Oui, mais moi, je suis lente, en plus. Donc ça s'est décoincé il y a 3-4 mois.
Alléluia.
Mais au-delà de l'ironie,
mieux vaut tard que jamais, comme on dit.
Au-delà de l'ironie, c'est vrai que vous avez mis du temps à l'accepter.
Vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai.
Alors qu'en face de vous, Vincent Lacoste, lui, a dû être l'accepter.
Ah non, mais lui, vous le faites sortir par la porte, il rentre par la fenêtre, donc évidemment. Il s'adore, il s'accepte, et il est magnifique, Vincent.
Merci de ce portrait joliment dépeint.
J'ai fait court.
Non, mais c'est vrai, Vincent, plongé à 14 ans, après vous avez enchaîné, vous n'avez pas réfléchi sur ce métier.
Moi j'étais content, mais surtout ça représentait absolument rien pour moi à la base en fait. Donc il n'y avait aucune pression à dire je suis acteur, quoi, tout simplement parce que à la base j'en avais pas grand chose à faire, ni des acteurs en général, ni. J'étais juste content de faire ça, quoi.
Même que c'est une infidélité.
Enfin, je fais pas de sentence à le fait d'être acteur, quoi.
Dans les Inrocks cette semaine, vous dites, dont le rédacteur en chef est Christophe Honoré, vous dites que c'est une
très beau numéro d'ailleurs.
C'est une infidélité.
Je viens de lire.
C'est une infidélité à vous-même d'être acteur.
Oui, parce que j'étais extrêmement timide, moi, quand j'étais plus jeune, et maintenant vraiment plus du tout, quoi. Je ne cesse de parler à tout le monde. Non, mais à la base, oui, j'étais quelqu'un de très discret et qui. Enfin, je pensais pas que j'allais pouvoir jouer des choses devant une caméra, quoi. C'était vraiment. Enfin, je sais pas, j'étais timide, quoi.
Eh ben, exemple à l'appui, on va vous écouter avec Chiara, puisque vous incarnez effectivement le Benjamin Biolay en plus jeune, quoi. Richard.
Ouais.
Mais regarde ce que t'es devenue. T'étais délicieuse et enflammée, et te voilà avide et organisée. Enfin.
Qu'est-ce que tu racontes?
Bah, c'est pitoyable, tes histoires de cul avec des mecs qui ont la moitié de ton âge. Tu t'imagines peut-être très libre, très joyeuse, mais en fait, t'es devenue triste. Cynique, d'un égoïsme froid. Tu vois la vie d'une manière utilitaire. Maintenant, tout a sa petite explication, une unique logique, et c'est celle de ton bien-être. Deux et deux font quatre, et le reste, c'est du vent. Mais tu te rends compte de comment ton cerveau s'est mis à fonctionner? Quand je t'ai connu, t'aurais été prête à tout pour que deux et deux fassent cinq, justement. Deux et deux font cinq, t'aurais trouvé ça tellement vrai, tellement charmant. Et comment t'as pu te convaincre à ce point que seul ton intérêt importait dans la vie?
Quel réquisitoire?
Non, tu te trompes, c'est pas un procès. C'est un déchirement. Quand veux-tu que je veuille te jouer du piano? Hein? On joue pas du piano à une femme qui veut tirer profit de toi. Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter, la musique, à une femme comme ça? Non, mais t'as raison, ça me concerne plus.
Je pensais pas que je t'avais autant déçu.
Mais maintenant, tu le sais.
Quel progrès depuis les beaux gosses, dites donc. Vous avez
déjà appris à lire depuis déjà.
Allez,
c'est
ça
plus facile pour mémoriser les textes.
Dans plaire, aimer et courir vite, le président
film. Il va se venger, Vincent Lacoste, quand il aura fait plus de confiance.
Mais il sera beaucoup trop fatigué pour se venger. Eh bien, comment il est.
Dans plaire, aimer et courir vite, Christophe Honoré vous a donné un rôle d'homme désirable. Mais c'est vrai que vous avez passé un palier avec lui, avec Honoré.
Bah ouais, bien sûr. Bah attendez, c'est heureusement qu'il est venu, parce que sinon là j'aurais fait, je sais pas ce que j'aurais fait. Non, mais surtout enfin j'étais très content de le rencontrer. Moi j'avais toujours voulu faire des films avec lui, donc déjà j'étais ravi de faire un film avec lui, et en plus de faire quelqu'un de extrêmement séduisant, c'était très agréable.
Et lui, il lui lance des trucs vachement durs, hein, en pleine tête.
Oui, c'est la version junior, on va dire, du personnage de Richard, et une version assez scandalisée. Et c'est vrai que quand Benjamin joue, lui, il est beaucoup plus fataliste, et surtout, il ménage beaucoup plus Maria. C'est pour ça que c'était intéressant d'avoir deux acteurs à des âges différents, pour un même personnage, en fait. C'est-à-dire que on voit bien que le Richard de 25 ans a beaucoup plus de choses à reprocher finalement à Maria que le Richard d'aujourd'hui. Et donc c'était ce rapport différent, en fait, à l'identité qui m'intéressait.
Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est l'indifférence? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que l'un est un peu acceptant et l'autre n'accepte pas?
Bah, la différence, je crois que c'est Benjamin qui le dit justement à un moment à la fin du film. Il l'explique d'ailleurs à Vincent Lacoste, parce qu'à un moment, les deux Richards vont se rencontrer. Mmh. Il lui dit, mais quand j'avais 25 ans, en fait, j'étais juste épris de cette femme, mais j'en étais pas amoureux. Mmh. Et je crois qu'il y en a un qui est épris de cette femme, c'est Vincent, et un autre qui est amoureux de cette femme, c'est Benjamin.
Peut-on réparer ces erreurs du passé? C'est aussi une des questions que pose le film. Alors, c'est quoi votre...
Bah, c'est le personnage de Camille, ouais, surtout, ouais. Qui est en charge de cette mission-là. C'est cette idée, oui, de quelqu'un comme ça qui, à un moment, a fait un choix, s'est sacrifié par amour et qui essaye de revenir, en fait, 20 ans plus tard, pour avoir une deuxième chance et récupérer ou réparer, comme vous dites, en fait, son erreur de jeunesse.
On va écouter un extrait avec vous, Camille Cottin, dans le rôle de la rivale, donc l'ex-prof de piano de Richard. Elle s'appelle Irène Hafner.
Quand j'ai connu Richard, c'était un gosse de riche, avec une sale peau. Je l'ai lavé de tout, de la rance mesquinerie de son milieu, de sa crasse de bourgeois, de sa laideur génétique. Grâce à moi, il est devenu un autre homme. Doux. Lecteur, beau, tendre. J'ai fabriqué un mari idéal. Je n'ai pas pu en profiter, vous avez débarqué, j'ai dû laisser la place. Quand il vous a suivi, et bien que je croyais m'y être préparée depuis longtemps, ma vie a sombré. La dégringolade. Plus de joie. Plus rien. Je m'attendais pas à un tel carnage. On s'aveugle parfois. On est incapable de comprendre. De voir tout simplement que notre vie tourne autour d'une seule personne. Vous vous êtes mariés, j'ai juré de ne jamais le revoir, de ne jamais lui faire signe. 6 mois après notre rupture, je suis partie sans laisser d'adresse, comme on dit. Je suis partie m'installer en baie de Somme. Mais depuis ce matin, je me suis remise à vivre. Pourquoi avoir réveillé le passé ? À cause de vous, ou grâce à vous, soudain tout me semble de nouveau possible. Et si c'était mon tour? Et si vous décidiez de me rendre celui que vous m'avez pris?
C'est un long texte, disait Camille Cottin, mais vous êtes habitué parce que vous, à la différence des autres ici présents, vous avez fait beaucoup de théâtre.
Ah oui?
Oui, donc vous avez une bonne mémoire.
oui.
Pourquoi vous riez, Vincent?
Non, parce que c'est toujours ce qu'on nous dit au théâtre.
Bah oui.
Enfin, ce qu'on nous dit, les gens qui vont pas forcément souvent au théâtre, ils sont toujours hyper impressionnés par le fait qu'on a appris le texte, alors que c'est vraiment anecdotique par rapport au fait de jouer ou de créer un personnage. Apprendre le texte, il n'y a pas d'enjeu.
Cette femme, quand même, elle a une vie entière imprimée par un seul amour. Mm. C'est lourd.
Ouais, c'est lourd, en même temps c'est assez poétique, c'est le fait d'un amour qui n'a pas été vécu comme elle voulait qu'il le soit. Il y a une notion d'éternité qui est assez forte, belle.
C'est vrai qu'un jour Fabrice Lucchini vous a dit « n'essaie pas de jouer grand ».
Ouais.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire jouer plus petit que lui.
C'est difficile.
S'il te plaît.
Pas mieux.
Alors, ça c'est une interprétation.
Oui, oui, par exemple.
Après, quand on est premier degré, bon élève, comme moi. Non, mais que, effectivement, je pense que c'est assez juste. Il y a des moments. Dans un parcours où on se dit, oh là là, cette scène, elle est difficile, où ça va engager quelque chose de profond, et de pas se perdre dans une volonté de... Enfin, c'est de prendre les choses peut-être par en dessous,
ouais.
même quand on a un sentiment de difficulté, ou que c'est un rendez-vous avec le personnage, que le personnage va vivre un truc très fort à ce moment-là. Ouais.
Il représentait quoi, Honoré, pour vous, avant de le rencontrer et de jouer avec lui? pour lui?
Non, un poète, mais encore plus après. Je ne savais pas beaucoup de cinéma aujourd'hui avec autant de poésie.
Oui. Benjamin Biolay, vous aussi, vous êtes nouveau venu. Vous aviez, j'imagine, vu ces films avant. Ça correspondait à l'expérience que vous avez eue, qui a correspondu à l'idée que vous aviez de lui?
Je crois que c'est un film très différent de ceux que j'ai vus, de Christophe Honoré. Donc, non, j'ai eu l'impression, bien sûr, j'ai reconnu le ton, on reconnaît le ton immédiatement, on reconnaît la musique, les couleurs, les nuances. Mais c'était un film, j'ai l'impression, qui était peut-être un changement dans la ciné... Je sais pas comment, cinégraphie, comment on dit?
Cinématographie.
De Christophe Honoré, donc ouais. Je pense que c'est assez différent. Mais évidemment, j'ai reconnu la musique.
On parlait de théâtre, Christophe Honoré, avec Camille Cotin, mais vous voulez pas, c'est pas un film théâtral, mais vous vouliez insuffler l'esprit du théâtre dans le cinéma.
En tout cas, je trouve qu'on se méfie souvent comme ça de l'alliance théâtre et cinéma, oui. Avec cette idée comme ça que ce qu'on peut dire de pire sur un film, c'est qu'il soit théâtral.
Curieux.
Or, on oublie que justement, on parlait des comédies hollywoodiennes, Indiscrétion, etc. Oui. C'est quand même des remakes de succès de Broadway. Exactement, on parlait de Sacha Guitry, etc. Moi, je crois que le théâtre et le cinéma ont beaucoup à faire ensemble. Et donc, c'est vrai que dans ce film... comme c'est un film qu'on a tourné principalement en studio, je me suis amusé en tout cas à utiliser des outils de théâtre pour échapper un peu à la réalité habituelle, on va dire, d'un film français et proposer comme ça des dérapages et le théâtre permet ça, permet l'artifice. Mais si vous voyez Fassbinder, si vous voyez Almodovar, etc., finalement il y a énormément de cinéastes qui sont travaillés sur cette idée que le réel n'est pas forcément quelque chose qu'on doit représenter tel quel, mais au contraire, on doit chercher la métaphore pour le représenter.
Et souvent, c'est une erreur sémantique. On veut parler de boulevard ou de opérette. Quand on dit ça, on parle pas du théâtre tel qu'il est en vérité, quand il est très bien, quoi. Enfin.
En même temps, ça ressemble pas aux mises en scène que vous faites vous au théâtre.
Non, parce que c'est, pour le coup, au théâtre, moi, c'est vrai que je pars souvent d'une base très documentaire et j'essaye comme ça de... Mais ce film-ci, je l'ai vraiment écrit au moment où on répétait justement un spectacle que j'ai fait l'an passé qui s'appelait Les Idoles.
Ouais.
Et c'est vrai que quand je rentrais, du coup, la liberté qu'on a quand même sur un plateau de théâtre et avec les acteurs et avec la manière tout simplement de mettre en scène, j'ai voulu qu'elle soit à l'œuvre dans ce film-ci.
On écoute un autre extrait de Chambre 212, Le vieillissement du corps.
Pourquoi je ne t'aime plus, Richard?
Bon.
Vous n'allez pas vous défiler?
Non, je vous laisse tous les deux. Je reste dans les parages, mais vous inquiétez pas.
Peut-être parce que mon corps a changé, aussi ton désir. Non? C'est peut-être à cause de mes organes qui vieillissent. Mes yeux qui voient moins. Mes oreilles qui t'entendent moins bien. Mes cheveux qui disparaissent, mes dents qui se trouent, ma peau partout qui plisse, et mon âme aussi. Il n'y a pas de raison que, comme le reste, t'avais pas pris un coup de vieux. Voilà, peut-être que si tu m'aimes plus, c'est parce que j'ai pris trop de coups, et que tu supportes pas de me voir comme ça, à terre et sans résistance. Certainement aussi que je me suis pas assez plaint auprès de toi de tous ces coups reçus. Si bien que t'as cru que je m'en foutais, que je me plaisais comme ça. Je pensais que ce corps amoché était acceptable pour nous deux, mais... C'est pas vrai, Maria. Je me déplais tellement.
Tu veux d'être prêt et tout ça, il y a un truc sacralisé.
On est à l'antenne, Camille, c'est très bien, parce que vous disiez justement qu'il y avait un côté... Non, mais c'est vrai, théâtral dans le travail du plateau, c'est-à-dire...
Vous avez le même trac sur un... Vous aviez le même
trac ? J'avais le même trac, ouais. Oui. Avant chaque scène, avant de tourner chaque scène, c'était comme une entrée en scène... À chaque fois, et effectivement, en plus, on est en studio, donc ça rappelle les décors de théâtre. Mais il y avait une concentration qui était vraiment semblable à la concentration qu'on peut avoir en coulisses. Et le décor avait une dimension, pour moi, je l'ai ressenti comme ça, un peu sacralisé, comme même titre que la scène.
Chiara, justement, j'ai travaillé en décor. Ça vous a fait, vous avez pas fait de théâtre, mais ça vous a paru différent de d'habitude, justement, oui, avec ces faux décors.
Enfin, je veux dire, moi, je les ai pas du tout vus comme faux, parce qu'en plus, la chance qu'on a eue, c'est que le décorateur avait pensé aux moindres détails, même des choses qui se voient pas à l'image. Donc pour nous, si on ouvrait un tiroir, il y avait des trucs dedans.
Enfin, ah oui.
Vous voyez, c'était ouais.
Oui, vraiment.
Ouais. Il y a eu un vraiment. C'était moi, j'étais très admirative et très reconnaissante aussi que ce soit si travaillé ce décor, parce que c'est vrai que le studio, ça pourrait sembler faux, mais moi j'ai jamais, à part la magie d'arriver en studio et de découvrir comme ça une reconstitution d'une rue de Paris que je connais bien, ça c'était magique, mais comme un plaisir d'enfant, de spectateur. Mais ensuite pour travailler, moi j'ai trouvé ça très très agréable. D'abord c'était agréable de voir que Christophe, qui avait quelques réticences au début, enfin pas des réticences, mais disons qu'il y avait une crainte qu'on devienne un peu trop confortable, qu'on se mette à ronronner et tout ça. Puis finalement, ce confort, je pense qu'au lieu d'induire quelque chose d'endormi, eh bien en fait, ça lui a donné aussi à lui la possibilité d'inventer plein de trucs qui sont pas dans le scénario, plein de petites astuces, de petites choses qu'on n'aurait pas pu, je pense, faire quand vous arrivez le matin et que c'est pas prévu et qu'on vous dit ah ben en fin de compte aujourd'hui Christophe va faire tomber des cendres noires, de la neige noire ou des trucs. Nous on était à la fois au guignol et en même temps acteurs de ce guignol. Ouais, quoi. Ouais. C'est assez magique.
Moi j'ai trouvé que le décor était beaucoup plus important que d'habitude aussi. Souvent quand on tourne, il y a que les champs qui sont opérés, qui sont construits quoi. Là il y en avait partout et vous ouvriez un tiroir, il y avait quelque chose de. Donc c'était aussi un des personnages, cet appartement, parce que moi j'avais pas la chance d'aller batifoler dans l'hôtel.
Il y a eu une grande rivalité selon quel côté de la rue on occupait.
Comment il orchestre les acteurs, les scènes?
Comme un réalisateur de disques aussi, comme un. Ah ouais. D'ailleurs, il fait de l'opéra, donc il y a quand même une notion de musique, parce que il vous donne le texte, puis il vous donne le rythme. Parce que j'ai aucun souvenir de chercher à occuper le terrain, quoi, d'être obligé de faire des trucs ou je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'on a toujours quelque chose de rythmique, et donc de musical à faire, quoi.
Il n'y a pas le blanc. Il n'y a pas le blanc à combler.
Non.
Non, mais ça, c'est dans sa mise en scène aussi, parce qu'il fait vachement, il sait parfaitement ce qu'il va faire à la caméra, il connaît parfaitement sa mise en scène, donc en fait, nous, on a juste à s'insérer là-dedans et à se déplacer, comme il nous dit, quoi, et ça, c'est hyper agréable, parce que ça donne encore plus de liberté.
Bien sûr.
Vous évoquiez la neige, Chiara, la neige, c'est une référence, c'est une référence à Alain René.
Oui, bah c'est
pas la seule, hein.
C'est pas la seule, mais dans Cœur, notamment, à un moment, il y a justement une grande scène avec Arditi, si je me souviens bien, où il y a la neige comme ça qui s'installe à l'intérieur d'un appartement et.
Et puis il y a des appartements qu'on voit de haut. Enfin, il y a
ça aussi chez Brian De Palma en même temps. Mais c'est vrai qu'Alain René, en tout cas, à partir du moment où moi ce film, pour moi vraiment cette femme qui va comme ça dans cette chambre d'hôtel, c'est pas un rêve le film. C'est vraiment que toutes les idées qui lui passent par la tête, en fait, soudain s'incarnent dans des personnages et dans des situations. Elle réfléchit. Et donc sur cette idée de film en fait. Cerveau, il est difficile de pas penser à Alain René puisque il a conçu en fait énormément de films de cette manière-là, c'est-à-dire d'essayer comme ça de cerner l'identité et l'émotion d'un personnage à travers des idées. Et c'était vraiment l'enjeu pour moi sur ce personnage-là.
Je trouve que dans le film aussi, on voit toujours le passé plus rose et le présent plus noir.
Alors je m'inscris en faux. La preuve, c'est qu'il y a une image du passé de Vincent Lacoste qui est même en noir et blanc dans le film.
Et comme par hasard, ça se passe rue de l'Ambre à Paris, où la boîte de nuit, mais vraiment, ça s'appelle comme ça, s'appelle Rosebud.
Le Rosebud, il y a un bar de nuit. Du réel. Ouais, voilà. Ouais. J'ai vraiment hésité parce que ce bar, en fait, j'habitais à un moment impasse de la Gaîté, et donc ce bar, le Rosebud, en fait, était un bar où j'aimais bien aller, et c'est vrai que c'est tellement lourd comme référence de cinéma. Et en même temps, le film fonctionne vraiment à ça. C'est-à-dire que le film, il a aussi un côté Madeleine. C'est-à-dire que soudain, cette dispute conjugale, en fait, replonge dans le passé le personnage de Maria.
Richard aime toujours sa femme. On va écouter ce bel extrait sur la peau et le désir.
Je peux pas te laisser dire que Maria et moi nous aimons plus parce que c'est faux. C'est tout simplement faux. Il suffit que sa peau rencontre ma peau, même quelques secondes, pour qu'on soit sauvé. Et là, qu'importe nos blessures, nos colères, la profondeur de nos deux solitudes. Il suffit d'un seul de ces contacts, même léger, même fugace. Et tout refleurit, tout respire. Sa main sur ma nuque, je pose ma tête sur son épaule. Et la réaction chimique se produit. Comme ça, immédiatement.
Mais t'es en train de me parler du souvenir de l'amour. Pas de l'amour, Richard. Pas de l'amour au présent.
Mais l'amour au présent, ça n'a pas de sens. L'amour, ça se construit toujours depuis un endroit de la mémoire. C'est toujours un lieu choisi à deux, l'amour. C'est toujours un autrefois. Autrefois, des premiers instants, des premières palpitations. Du premier jour où on s'est su amoureux à deux. Bon, après, je te l'accorde, on entretient le souvenir. Mais c'est pas du présent. C'est du passé qu'on fait ressurgir l'assurance de l'amour.
Ça, c'est une grande phrase, Christophe Honoré. C'est du passé qu'on fait ressurgir l'assurance d'un amour.
Oui.
C'est de vous, non?
Non. Oui, mais c'est parce que je lis beaucoup trop Proust en ce moment, je pense. Donc, bah, en tout cas, c'est ça qui se passe dans le film. C'est-à-dire que pour réfléchir à son couple, puisque c'est quand même bien cette idée-là, de ce personnage féminin, elle le réfléchit aussi depuis le passé, c'est-à-dire elle compare un petit peu l'actualité présente de son couple avec l'espèce d'âge d'or qu'elle a en tête en fait de leur rencontre. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'elle se retrouve confrontée à Vincent Lacoste, c'est-à-dire à son mari 20 ans plus jeune. Tous les fantômes quand même qui surgissent dans cette chambre magique, on va dire, c'est bien elle qui les convoque. Donc ils sont à la fois issus de sa culpabilité et aussi de sa nostalgie.
Vous dites que c'est un personnage qui pense et qu'au fond, c'est très rare au cinéma.
Enfin, je crois que c'est difficile de filmer un personnage qui pense, finalement, au cinéma.
Et de jouer aussi.
Et de le jouer aussi. C'était là où, à la fois, Chiara, c'est partagé, je pense, par l'ensemble de la distribution. C'est-à-dire que j'avais besoin aussi, justement, d'acteurs qui soient capables d'amener ça vers une élégance, vers une, que ce soit des héroïnes. Enfin, Chiara, pour moi, c'est vraiment une héroïne de comédie dans ce film-là. C'est-à-dire que, mais c'est une héroïne de comédie où c'est vrai que c'est moins sur le corps, sur le burlesque, en fait, que sur la pensée, que le côté dérisoire, que le côté ironique, en fait, se joue.
Il y a un fond nostalgique quand même. On parle de comédie depuis le début, mais il y a quand même une grande nostalgie.
Ou de la mélancolie.
Ou de la mélancolie, je dirais.
Non, moi j'aime beaucoup cette idée d'essayer de construire en fait les formes les moins solennelles possibles, les plus légères, les plus séduisantes quand je peux, mais sans évidemment lâcher des émotions profondes et la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de son amour après 20 ans de vie commune, et c'est quelque chose, je pense, qui est partagé et qui est très universel, quels que soient les couples et quel que soit en fait l'historique des couples. C'est la question du désir, comment aussi l'espèce de tendresse qui s'installe peut devenir parfois dangereuse en fait pour le couple, etc. C'est des questions, c'est vrai, qui sont importantes, mais j'espère que le film en tout cas a là-dessus une couleur de fantaisie. En tout cas, c'était vraiment ce qu'on a cherché à faire.
On va presque terminer par cette chanson, Could It Be Magic, chantée et jouée par Camille Cotin.
Baby, I want you now, now.
Bravo, vous restez.
La joie du Chopin dans les loges, c'était hyper agréable.
Ouais, ça détendait tout le monde.
Vous restez avec nous, Christophe Honoré, Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Camille Cottin et Vincent Lacoste. On se retrouve après. Stéphane Escher, c'est aussi un chanteur, et on se retrouve pour parler des films qui sortent ce mercredi.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible. Que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair. Ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. De relancer les comment, les pourquoi qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille, le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, comme sec sans mes bras. Si tu veux que je chante, si tu veux que je chante, les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sans mes bras.
Ils sont très dissipés.
Mais on n'est pas du tout dissipés.
Non, non, mais c'est vrai qu'on a
disait bon, que Stéphane, l'album de Stéphane Escher était très beau.
Oui, c'est vrai. Et on est bien c'est vrai. Pour une fois, on parlait du disque et pas de cinéma. Atlantique, on va commencer par ça. Premier film de Mati Diop. Grand prix à Cannes cette année. Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d'un chantier sans salaire depuis des mois décident de quitter le pays par l'océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleymane, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d'Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Les intentions sont grandes et belles. Après les émeutes de Dakar en 2012, Mati Diop a posé les bases de son film. Il n'y a pas les morts en mer d'un côté et les jeunes en marche de l'autre. Les vivants portent en eux les disparus qui, en partant, ont emporté quelque chose de nous avec eux. Il s'agissait d'une même histoire collective. Très ambitieux projet qui démarre comme un Roméo et Juliette, associé à une chronique sociale qui va glisser vers le thriller, fantastique, pourquoi pas, à condition de savoir où tout cela mène, vers la métaphore, mais quelle métaphore, quelle allégorie cette épidémie engendre-t-elle, on ne sait pas. On voit tous ces sous-genres cinématographiques s'empiler comme un millefeuille, un peu d'amour contrarié, un peu de social, un peu de politique et de magie, tous traités au même niveau, de façon assez lymphatique, sans suspense, et pire, sans émotion, Laurent.
Ben, je voudrais vous contrer que je pourrais pas. C'est-à-dire qu'on partage effectivement le même avis sur ce film qui est écrasé, à mon sens, par son Grand Prix. Hein. Je trouve un premier film Grand Prix à Cannes, ça va être dur le second de concrétiser ou de faire radicalement autre chose. Moi, je trouve effectivement, comme vous le dites, que le conte cruel de Mati Diop ne fonctionne pas en raison effectivement de ses contradictions, de ses ambiguïtés. Alors certes, c'est bourré de bonnes ambitions et de bonnes intentions, mais au bout du compte, ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne pas notamment sur ce qui est pourtant manifestement son propos initial, c'est l'émotion.
Psychomagie, un art pour guérir d'Alejandro Jodorowsky, c'est l'objet filmique le plus insolite de la semaine. Jodot a créé la psychomagie au moyen d'actes théâtraux et poétiques s'adressant directement à l'inconscient. Cette thérapie permet de libérer des blocages, proposer à une personne de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. La psychomagie a le même but, rendre à la personne la conscience de soi, éliminer ce qui l'empêche d'être soi, bref, mettre en scène son trauma pour le libérer. Là, je simplifie un peu, les mises en scène en question sont parfois classiques et des massages thérapeutiques, parfois un peu folles, se promener nu, peint en or dans la rue pour sentir sa virilité, ou enchaîner comme des esclaves, comme ce couple en crise dans Paris, se mettre en terre et être aspergé de lait par Jodot lui-même pour guérir un père qui l'a abusé, ou simplement nourrir un arbre pour cette très vieille dame très déprimée. Jodot, mage, gourou, il faut y croire, les résultats sont là pourtant, dans un dispositif toujours le même, la description du trauma, l'acte, la renaissance, un peu systématique et surtout moins poétique que ces films qu'il faudrait aller revoir à la Cinémathèque, comme El Topo, La Montagne Sacrée ou La Danse de la Réalité, cet hommage qui lui est consacré par la Cinémathèque française jusqu'au 9 octobre. Voilà. Gwen.
Vincent Lacoste est très partant, hein, ouais. Pour un petit coup de musique.
Gwen, Arthur H. essaie d'ailleurs dans le film. Et ben c'est voilà. Une belle expérience pour se guérir du deuil de son père. Gwen, le livre de sable, le premier film devenu culte de Jean-François Laguioni, Laurent.
Oui, en fait, il y a trois actualités pour Laguioni cette semaine. Oui, trois, pas seulement Gwen, il y a Gwen, le livre de sable. Formidable dessin animé avec des figures découpées, c'est vraiment de la merveille d'animation française. Laguioni, c'est aussi le tableau. Donc, le film est en salle, il ressort en salle, c'est un superbe compte d'anticipation, je le disais. Il se trouve aussi que pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une salle de cinéma à côté de chez eux, qui passent le film, eh bien, il sort en DVD aux éditions de La Traverse avec un très bon livret montrant plusieurs travaux d'approche du cinéaste. Et puis, il y a en salle également un programme de 7 courts-métrages sous le titre Les mondes imaginaires de Jean-François Laguioni, dont celui multiprimé au César comme à Cannes, qui s'appelle La traversée de l'Atlantique à la rame. Jean-François Laguioni, c'est vraiment l'un de nos très très grands animateurs, comme on dit.
Le regard de Charles, de Charles Aznavour, réalisé par Marc Di Domenico. Pourquoi cette nuance dans l'intitulé? Parce que tous les documents du film ont été filmés par Charles Aznavour tout au long de sa carrière. Une caisse de bobines Super 8 confiée à Domenico, 40 heures de rush, résumée en 1h23, principalement les années 60-70, et la voix off de Romain Duris pour incarner celle d'Aznavour, des textes piochés dans les 5 biographies du chanteur. Pourquoi ce document est merveilleux? Parce qu'il raconte au fond le destin d'un petit garçon pauvre qui s'est retrouvé en haut de l'affiche mais qui n'a jamais oublié ses origines, filmant partout dans le monde des démunis, en Afrique, en Inde, à Casablanca, à Moscou et bien sûr Erevan, mais aussi sa vie privée avec sa première femme qu'il sacrifiera pour sa carrière, c'est lui qui le dit. Le deuil d'un fils et eut là la femme de sa vie lumineuse, sans compter ses images rares de tournage, celle notamment d'un taxi pour Tobruk avec Ventura, fils d'immigré lui aussi, une enfance qui les liera à jamais.
On aurait pu vous passer dans cette émission, désormais chantée par Benjamin Biolay, ça aurait fait le lien avec Le regard de Charles, le très très beau documentaire que vous venez d'évoquer, Christine, effectivement, avec, pour moi, des découvertes, certaines chansons d'Aznavour que je ne connaissais pas, dont une écrite par Bernard Dimet au moment de la guerre d'Algérie et qui a été radicalement censurée par les autorités françaises de l'époque, de très très belles images effectivement d'Afrique, et puis ce retour en Arménie qu'il filme avec cette grand-mère qui l'étreint, là vraiment il y a des séquences magnifiques, et cette utilisation à la fois aussi des archives télévisuelles de l'époque, de ses propres films, on y croise Piaf entre autres. C'est un objet de cinéma tout à fait passionnant qui part des petites caméras et de l'intime pour englober l'universel.
Et même Sammy Davis Jr. qui était le témoin de son mariage. Incroyable. Jamie Nyman, le nouveau film d'Ang Lee, Henry Brogan, c'est Will Smith. Un tueur professionnel est soudainement pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements. Ce sont deux Will Smith dans le film. L'acteur incarne à la fois l'assassin de 51 ans et le meurtrier de 23 ans.
Mais c'est les deux Richard.
Mais en plus, ce nom s'est donné du mal avec deux acteurs et pas des effets spéciaux.
Ben voilà, justement, ils sont entièrement conscients en version digitale. Alors, Laurent.
Eh ben, Chiara Mastroianni a totalement dévoilé ce que j'allais dire. C'est-à-dire, effectivement, c'est un mauvais remake du film de Christophe Honoré.
Contrairement à Vincent Lacoste, je ne reviendrai plus envahir votre plateau.
Mais si, vous reviendrez. Parce que vous...
Non, vous êtes formidable. Il a pris la place, j'ai bien compris.
En un mot, vous avez dit ce qu'il fallait dire du film. Non, mais il fait le malin, c'est ça qui est
comme
le plus
vous,
fort.
D'ailleurs.
Je ne vais pas voir les films. Je ne vais pas voir les films dont je parle, ça pourrait m'influencer. Je sais. On en reparlera. À force de faire le malin avec les paradoxes, on s'y brûle les ailes. Et ben, c'est ce que fait Ang Lee, fait le malin, c'est-à-dire qu'il est dénoncé la haute technologie du clonage à travers un film qui n'est que cela, de la haute technologie du trucage. Résultat, c'est très long, 2 heures. C'est très long pour rechercher les manettes de jeux vidéo qu'on aimerait
pourrait avoir sous la main pour regarder les poursuites, les longues poursuites filmées. Pour jouer, on est toujours mieux chez soi.
Mais c'est le vrai anglais ou c'est un homonyme?
C'est un.
C'est le vrai.
C'est le vrai anglais. Ah, c'est
très surprenant. Qui a fait des merveilles, quand même.
Qui a fait des merveilles. Donc c'est très surprenant.
Un blockbuster. Ice Storm, qui est un petit peu beau.
De toute façon, moi, je suis arrivé en taxi. Le monsieur m'a expliqué qu'on n'avait pas d'avenir, nous, dans le cinéma, que bientôt, grâce à ces effets spéciaux, il n'y aurait plus d'acteurs. J'étais très contente. Ça m'a bien mis en forme pour arriver à l'émission de ce
matin.
Quand je suis.
Oui, non, j'espère que non.
On va juste
dire que le 7e panorama du cinéma colombien en deux mots à Paris du 9 au 15 octobre 2019 au cinéma Le Reflet Médicis, 12 longs métrages, 19 courts en compétition pour tous savoir sur le cinéma colombien de maintenant.
On a un petit peu le temps, Laurent, donc on a un cadeau chacun, c'est vous qui les avez tous choisis, je tiens à le signaler.
Mais, avec votre accord. Le premier, c'est pour Chiara Mastroianni, on va vous offrir le documentaire sur Alexander McQueen, vous l'avez vu, Camille Cotin, il est beau avec une musique de Michael Nyman, et c'est vraiment un beau portrait de ce styliste et de ce créateur hors pair.
Et lui aussi, c'est beaucoup filmé, ses collaborateurs l'ont filmé, c'est passionnant.
Passionnant.
Pourquoi du coup ce choix beaucoup.
C'est bon pour le.
Pourquoi
non, mais t'inquiète pas, on se le prêtera.
Je l'ai déjà vu.
Voilà. Non, mais ah bah oui, je savais que vous l'aviez vu, Camille Cotin. Donc, mais il faut toujours attaquer, c'est la meilleure défense. Donc, entretien en bonus avec les deux réalisateurs, et c'est chez au Pacte Diffuseur. Pour vous, Camille Cotin, tiens, justement, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, Fric Frac de Maurice Lehmann. Pourquoi ce film? Parce qu'il est avec Arletty, Michel Simon, Fernandel, trois magnifiques acteurs cabots français géniaux dans ce film.
C'est une pièce de théâtre à la base.
C'est exactement, vous avez tout à fait raison, une pièce
de
théâtre.
C'est pas
chez Solaris.
Et c'est chez Solaris, absolument. Alors, Christophe Honoré, pour vous, bon, on va faire dans le velours, on va faire dans le certain, on va vous offrir un Guitry, Faisons un rêve. C'est chez Gaumont. C'est avec Guitry, sa femme, Mademoiselle Delubac et Rému. Je ne sais pas si vous l'avez revu à l'occasion.
Si, parce qu'il y avait même une scène très en référence et où Camille, disait une réplique de Guitry et ça a été. Ça a disparu du montage, mais c'est un des plus beaux Guitry pour moi.
Ouais. Pour vous, Vincent Lacoste, je sais que vous aimez un certain Francis Ford Coppola. Eh bien, voici en magnifique. Version définitive Apocalypse Now Final Cut avec la version 4K. C'est 6 heures de bonus. C'est
mais
une
il
édition.
Moins bien, non,
c'est chez Pathé. Ben, vous avez justement. C'est ça la jeunesse. Pour vous, Benjamin Biolay, cherchez l'idole. C'est un message. Voilà, le film de Michel Gouard. Johnny, Sylvie Vartan et Charles Aznavour, voilà. Vous verrez. C'est un très joli film.
Merci beaucoup.
Chez Gaumont.
Merci beaucoup. Chambre 212 sort mercredi prochain.
Courez le voir.
Merci Chiara, Christophe, Benjamin, Camille merci et Vincent. Et on vous laisse le générique. Au revoir.
Merci.
Merci, au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi,
Christophe Honoré.
Moi, Camille Cotin.
Benjamin Biolay.
Vincent Lacoste.
Et moi,
Caroline Mastroianni. Et moi, Caro, j'y étais.
Et moi, Chiara, j'y étais.